Frédéric Secher, bonjour.
Très heureux de vous revoir à l'occasion de la sortie le 10 mai de votre film « Le cours de la vie » qui est présenté aujourd'hui au Love Festival. On peut dire quand même que c'est l'endroit idéal pour un film d'amour. Donc, comme je vous disais il y a quelques jours, très beau film. Film d'amour, d'amour de l'écriture, amour de la vie et amour de l'amour.
Absolument, mais c'est très bien résumé. Merci. Très heureux que le film soit perçu comme tel. Et je suis très heureux d'être ici à Mons, parce que j'ai une histoire particulière avec ce festival. C'est la troisième fois que j'y viens. La première fois, c'était en 2000 pour mon premier long métrage qui s'appelait Les Regards de moi. Puis j'étais revenu avec un documentaire, je veux être actrice. Et là, aujourd'hui, pour le cours de la vie. Et c'est vrai que ce film parle de cinéma, que c'est un film d'amour sur le cinéma. Mais comme tu l'as dit, c'est surtout un film d'amour sur l'amour tout court. Et pour moi, c'est un film qui peut parler à tout le monde, y compris ceux qui ne sont pas cinéphiles, parce que ça raconte...
Il faut bien insister, c'est vrai. On parle de scénario, d'école de scénario, mais c'est surtout un film sur la vie, quand même.
Voilà, puisque Agnès Jaoui, qui a le rôle principal dans le film, joue le rôle d'une scénariste qui vient faire un cours de scénario. Alors on peut se dire, oulala, qu'est-ce que c'est un cours de scénario, ça ne me concerne pas, mais pas du tout, parce que ce qu'elle va dire dans son cours... en fait, est directement orientée, et ce pourquoi elle a accepté de faire ce cours, d'ailleurs, c'est pour revoir son grand amour de jeunesse, qui est interprété par Jonathan Zakaï. Et donc, on va tout de suite comprendre qu'il y a un sous-texte, et que ce qu'elle raconte, en fait, est destiné à une personne en particulier, et donc il va y avoir des passerelles en permanence entre la vie et ce cours de scénario. Et donc, on va plus savoir, finalement, si ce qu'elle raconte, c'est vraiment un cours de scénario ou c'est un cours de vie. D'où le titre « Le cours de la vie » pour ces retrouvailles qui auront lieu ou pas avec son amour de jeunesse.
Suite à l'écran. Alors, il s'agit d'une adaptation d'atelier d'écriture d'Alain Lérac avec en sous-titre « 50 conseils pour réussir son scénario sans rater sa vie » qui était paru aux éditions Hémisphère dans la collection Ciné-Cinéma. Collection, je crois que vous connaissez bien, non ?
Oui, parce que c'est moi qui la coordonne. Et en fait, l'origine du film est là. Parce qu'en fait, donc, quand j'étais jeune étudiant, il y a très 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 longtemps, j'avais un professeur de scénario qui s'appelait Jean-Paul Teroc, qui est décédé. Et donc, il y a 4 ans environ, j'étais à son enterrement. Et là, j'ai retrouvé un étudiant qui était dans la même promotion que moi, qui s'appelle Alain Lérac, et qui m'a dit, j'ai écrit un manuscrit sur le scénario et je cherche un éditeur. J'ai lu son texte. Et je suis tombé
amoureux
du texte, j'allais dire. Puisque, justement, ce n'est pas du tout un texte didactique. Ce n'est pas du tout un texte professoral. C'est un texte où il parle de la vie, par exemple. Et c'est repris dans le film.
Comment, 2017, ça veut dire qu'il y a eu un flash ou il a fallu un certain temps de réflexion avant de se dire « Tiens, finalement, on pourrait sans doute en faire un film. »
Ben, ça, c'est le temps de...
Et c'est long aussi, bien entendu.
On voulait faire le film d'abord en Belgique, puis on n'a pas trouvé le financement en Belgique, donc on l'a trouvé en France. Ça a mis tout un long parcours.
On connaît votre part.
Voilà. Et donc ça a mis 3 ou 4 ans entre l'idée et la concrétisation qu'on a aujourd'hui. Voilà. C'est ça qui est important, c'est que le film existe.
Alors, la meilleure école de scénario qui puisse exister, c'est de faire une thérapie, c'est votre cas ? C'est Agnès qui s'en va, c'est Noémie.
On n'est pas forcé de faire une thérapie, mais on est forcé de s'intéresser à la psychologie humaine. Ça, c'est clair. Donc, avec ou sans thérapie, c'est une question de psychologie. La psychologie du personnage, la motivation. Et puis, ce qui me passionne le plus, tant dans le scénario que dans le jeu d'un acteur, c'est ce qui ne se dit pas. Et c'est ce qui se vit à travers les regards. Ce qui est une phrase... Et on joue le contraire de la phrase. Par exemple, il y a un film que j'adore de Ophuls qui s'appelle Madame 2 avec Daniel Darieux. Et quand elle est dans les bras de son amoureux, elle dit « Je ne vous aime pas, je ne vous aime pas, je ne vous aime pas ». Évidemment, elle joue l'inverse. Mais c'est beaucoup plus fort que si elle était dans la redondance. Et donc, c'est tout l'art, je pense, du scénario. C'est parfois d'écrire des répliques, par exemple, qui ne disent pas ce que ressent vraiment le personnage. Et donc, il va y avoir la rencontre entre la réplique et l'interprétation. Et donc, il y a un jeu de cache-cache sur les informations qu'on donne et dans quel ordre on les donne. Et dans l'axe émotionnel de l'acteur aussi, Mais comme dans la vie, d'ailleurs. Mmh. Parfois, on dit pas toujours ce qu'on pense, parce qu'on a des contraintes sociales. Si on trouve que son patron est un con, on va pas lui dire « espèce de con ». Mais par contre, voilà, donc on va avoir un langage plus châtié. Et donc, c'est ça qui est intéressant. C'est comment le langage plus châtié va être dit pour qu'il y ait ce ressenti qui...
Malgré tout.
Voilà.
Alors, encore des répliques. Les répliques sont magnifiques, je peux le dire quand même. De Noémie. La première qualité d'un scénariste n'est pas tant l'imagination que l'observation. Vous travaillez comment, vous, hein? Vous avez des petits carnets
Mais moi, d'abord, je suis amoureux des acteurs et je trouve qu'il y a un moment magique, c'est quand on part du scénario et qu'on arrive au tournage et qu'il y a tout à coup la vie. Parce qu'un scénario peut être le meilleur scénario du monde, s'il est mal interprété, c'est impossible que ça soit un bon film. On parle des films de fiction, évidemment, ici. Et donc, cette rencontre entre un scénario et des acteurs, c'est moi ce qui me plaît le plus dans le cinéma. Il se trouve que la spécificité du cinéma, et ce qui le différencie du théâtre, c'est aussi qu'au montage, on peut, par le choix des prises et par les raccords entre les plans, orienter l'émotion, sans parler de la musique. Parce qu'évidemment, on change la musique sur un même film, on n'aura pas la même perception émotionnelle. Donc, on peut garder le même montage et on change la musique, c'est pas le même résultat. Et donc, ce que je trouve fascinant dans le cinéma, c'est que tous ces complices de création, que sont les acteurs, le scénariste, le compositeur, quand on a la chance, comme c'est le cas sur Le cours de la vie, de travailler avec Vladimir Kosma, de tous ces éléments réunis ensemble qui vont faire le film, en fait. Et il suffit qu'on change un des éléments, par exemple, c'est pas le même acteur. Voilà.
Alors, justement, en parlant de Vladimir... Il a composé deux musiques originales et vous a quand même donné aussi l'occasion de reprendre 11 de ses musiques préexistantes, dont, on peut le dire quand même, le téléphone.
Parce que oui, c'est... Jean Blanc, qui est un film que j'aime beaucoup personnellement. Je sais que ça fait pas très
c'est chic. C'est assez
surprenant. C'est assez surprenant. La maladresse de Pierre Richard à l'époque est quelque chose de magique, je trouve.
Alors, comment travaillez-vous avec lui? Parce que c'est plus que de la collaboration, c'est de l'amour quand même, c'est une amitié incroyable entre vous deux, non?
Ben j'ai la chance que c'est donc la quatrième fois qu'il accepte de travailler avec moi, et donc sur ce film-ci, précisément, qui est un film donc aussi d'amour sur le cinéma, c'était magique pour moi d'avoir les musiques de Vladimir Kosma, car ces musiques font le cinéma. On a tous, par exemple, c'est pas dans Le cours de la vie, mais si on se rappelle de Rabbi Jacob, ou si on se rappelle du Grand Blanc avec une chaussure noire, ou de certains films comme Diva, par exemple, on les associe tout de suite à la musique qu'il a composée pour ces films.
Ça doit être dur de trouver les musiques qui sont utilisées dans le cours. Il y en a tellement. Ça n'a pas été évident non plus d'aller faire une sélection.
Ça, c'est une grande chose. Donc, Vladimir Kosma, donc, comme vous l'avez dit, à la fois accepté de faire deux morceaux originaux et en même temps de m'ouvrir le catalogue de toutes les musiques qu'il avait faites. Et donc, ça, c'est aussi le travail du monteur qui a réécouté avec moi toutes les musiques de Vladimir Kosma.
Oh là là.
Enfin, il y avait l'idée de ne pas prendre les morceaux les plus connus, sauf le téléphone,
bien sûr.
Mais il y a tellement de musiques extraordinaires, et je parle pas de mon film là, mais qui ne sont moins connues de Vladimir Kosma, parce qu'elles ont été intégrées à des films qui n'ont pas forcément tous eu un succès public, et donc il y a une mine d'or là dans le patrimoine musical dans l'œuvre de Vladimir Kosma. Et c'est vrai qu'on a une amitié ensemble, enfin, en tout cas, moi je l'aperçois comme tel, il faut lui poser la question, mais c'est formidable d'avoir cette relation, cette complicité avec ce grand monsieur.
Alors, les comédiens, on va quand même en parler. Agnès Jaoui, c'était une évidence de par sa position, scénariste, réalisatrice, et aussi, elle donne ses leçons. Expliquez-nous plutôt le choix de Jonathan.
Alors Jonathan, il se trouve que c'est un ami d'enfance, puisque tous les deux, on a vécu notre enfance. Donc moi, je suis belge, bien évidemment, et Jonathan vivait à Bruxelles, au même moment que moi, quand on était tous les deux enfants. Et je peux même dire que je pense qu'on a commencé tous les deux à faire de la mise en scène, en étant des joyeux garnements, puisque quand on avait 9 ou 10 ans, on s'amusait à faire des blagues téléphoniques ensemble, avec de la mise en scène, avec du bruitage, en changeant les voix. Et donc, c'était un plaisir de le retrouver. Et donc, on a tout de suite retrouvé notre complicité qu'on avait, qui remontait donc très longtemps. Donc c'est ça aussi qui est magique dans ce film, c'est ces retrouvailles.
Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de Dina Alves, qui joue Clémentine, chef costumière, et dans les remerciements, sans qui le film n'aurait pas existé.
Alors, Dina Alves, donc, est ma compagne, et elle m'a accompagné à toutes les étapes du film. Et donc, elle était présente dans toutes les différentes versions du scénario, sans pour, elle n'était pas co-scénariste, mais elle lisait les différentes versions, elle me donnait son avis. Elle était présente dans toute la préparation du film, sur le tournage comme costumière, mais pas que, parce qu'elle avait plein de fonctions sur le tournage. Et donc, c'est formidable quand on a comme ça quelqu'un, en plus qu'on aime, à côté de soi, et qui a un regard critique. Parce que si c'était un regard uniquement...
complaisant.
Voilà, pour dire uniquement, toujours c'est merveilleux, ça n'aura aucun intérêt. Mais c'est pas son cas. Hein. C'est, en général, quand elle ne dit pas cela.
Alors, dans les remerciements aussi, on trouve Bertrand Tavernier. Expliquez-nous un petit peu, justement, l'impact qu'il a pu avoir sur votre carrière, sur votre travail.
Alors, il se trouve que Bertrand Tavernier, environ un mois ou un mois et demi avant sa mort, m'a écrit un mail. Je ne comprenais pas pourquoi il m'a écrit ce mail. Et il me dit, Frédéric, je vous écris pour vous dire, continuez à faire du cinéma. Je crois en vous en tant que cinéaste.
Bravo.
Et je me dis, mais pourquoi il m'écrit ça? Je ne comprenais pas. Et en fait, j'ai compris rétrospectivement que c'était sa lettre d'adieu, parce qu'il savait qu'il allait partir. Et donc, je trouve que c'est un immense monsieur, pas simplement parce qu'il m'a fait ce grand honneur et cette amitié, mais parce que c'était quelqu'un, et rares sont les cinéastes comme lui, qui sont curieux des autres cinéastes, qui sont dans la générosité par rapport aux autres cinéastes. Non seulement pour le cinéma patrimonial, puisqu'il a été passionné d'histoire du cinéma. Alors, c'est dans un grand éclectisme, puisqu'à la fois il était fasciné par le cinéma américain, il a écrit un livre de référence qui s'appelle Les Amis américains sur les cinéastes américains qu'il a admirés et qu'il a rencontrés, mais aussi pour le cinéma français, puisque son dernier film, en fait, est un documentaire sur des films
historiques.
Voilà, d'histoire du cinéma français, avec plein de films qui ne sont pas aussi connus et qui voulaient. Voilà. Et donc, je trouve que c'est exceptionnel quand on est un cinéaste comme lui, dans la générosité pour d'autres cinéastes. Et il a été très important pour moi à un moment qui était peut-être le pire de mon parcours de cinéaste. C'est quand j'ai fait un premier long métrage qui s'est mal passé. J'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Main basse sur le film ». Et il a accepté d'en faire la préface. Et depuis lors, on se voyait pas tous les 15 jours, hein, c'est pas ça, mais régulièrement, il y avait des échanges. Et donc, il était attentif. Par exemple, c'est lui qui a eu un coup de cœur pour Cinéaste à tout prix, le documentaire que j'ai fait, qui avait été sélectionné à Cannes. Le premier à l'avoir vu, à avoir fait un coup de cœur, sans que je lui demande rien, il en a parlé à France Inter pendant 10 minutes, alors que personne n'avait encore vu le film. Et donc, voilà, j'avais envie de le remercier, parce que sans lui, je ne serais pas là, en fait, comme cinéaste, tout simplement.
Alors, vous m'avez comblé, Tavernier, c'est un nom, mais Paul Schrader aussi. Alors, expliquez-nous un petit peu. Est-ce que c'est pour l'anecdote de Taxi Driver ou réellement c'est un réalisateur scénariste qui vous touche particulièrement?
Les deux. Et puis, c'est quelqu'un qui est dans le goût de la transmission, puisqu'il a, il a donné des cours de scénario à New York, notamment. Et donc, je rêve d'un jour pouvoir lui montrer les films, parce qu'il n'est pas au courant, à mon avis, qu'il y a ce dommage qu'il a rendu.
On peut parler quand même aussi de votre fille, Nastasia, qui joue Romane. Je suppose, après avoir vu le film, qu'elle veut toujours être actrice. Il faut quand même dire qu'à 10 ans, c'est vous qui l'avez mis en scène, quand même, non?
Alors, je ne sais pas où elle en est pour l'instant à ce niveau-là, parce qu'elle a 18 ans aujourd'hui. Et donc là, elle s'est mise à des études plus sérieuses, entre guillemets, qui sont des études de droit. Mais voilà, donc je ne sais pas si elle va revenir à l'envie d'être actrice, si elle pourra amener les deux de front. Mais le plus important, je crois, quand on est parent, c'est de vouloir qu'elle fasse, puisque c'est ma fille, ce qui l'épanouit, elle. Et donc pas que je me réalise à travers elle, mais qu'elle choisisse sa voie. Et c'est vrai que le métier d'acteur, comme le métier de cinéaste d'ailleurs, sont des métiers peut-être les plus beaux du monde, mais aussi qui sont des métiers très curieux, puisqu'on dépend toujours des autres. L'acteur, il dépend d'être choisi pour un rôle, en tout cas, quand il n'est pas connu, au début de sa carrière, il va dépendre donc d'être choisi pour tel ou tel rôle, et le cinéaste, il va dépendre du financement qu'il trouvera ou pas pour son film. Et ça, c'est un point commun de tous les cinéastes et de tous les acteurs au monde. Donc, c'est compliqué. Donc, peut-être que pour son bonheur, peut-être c'est mieux une autre voie, je ne sais pas. C'est vraiment à elle de choisir.
Alors, vous avez fait aussi votre Hitchcock, finalement, dans le film, en faisant ce petit coucou. Je me suis dit, finalement, Frédéric, il est Noémie ou il est Vincent ?
Un peu les deux. Disons que je suis plus Vincent, mais contrairement à Vincent, c'est ma grande différence, mais peut-être ma folie ou mon manque de sagesse. Puisque Vincent, dans le film, joue le rôle de quelqu'un qui a décidé d'arrêter de faire des films, mais moi, j'ai décidé, coûte que coûte, de continuer le combat, comme on dit. Mais la sagesse aurait peut-être été d'arrêter, non pas que je sois... que ce que je fasse soit bon ou pas bon, c'est pas ça la question. Mais en tout cas, c'est pas que ça la question. Mais la question, c'est que je serais bien peut-être plus heureux du point de vue normatif de pas d'avoir un salaire d'enseignant et de pas avoir de problème et de vivre une vie pépère. Eh ben non. Coûte que coûte, je continuerai. Voilà.
Alors pour revenir à l'amour, il y a aussi une belle réplique. Est-ce qu'il faudrait quitter les gens avant qu'il ne nous quitte, c'est un peu la prise à chanson de Berkin, fuir le bonheur de peur qu'il se sauve. C'est votre maxime de vie ?
Ah non, c'est l'inverse, justement. Ma maxime de vie, c'est au contraire se confronter. Et la plus grande des confrontations, c'est universel, et c'est depuis toujours, c'est la confrontation à soi-même. Et je trouve que quand on a donc pouvoir... avoir cette capacité d'introspection, de se regarder en face et de voir ce qui ne va pas. On a tous quelque chose qui ne va pas en nous. Personne n'est parfait. Donc forcément, ça fait mal de voir ce qui ne va pas et d'essayer de progresser. Et je pense que les plus belles histoires d'amour sont celles où, par l'amour, on arrive à se révéler soi-même et à surmonter certaines de ses faiblesses, parfois de ses lâchetés, et que par amour, justement, on arrive à surmonter cela. Et voilà, donc c'est ça plutôt ma philosophie.
Frédéric, un grand merci. On rappelle Le cours de la vie qui sort le 10 mai. Merci.
Merci.